Vous écoutez
RMC. RMC. 5h-6h30. Charles Matin. Martin Bourdin.
Bonjour à tous, bienvenue sur RMC. On est le mardi 23 avril, il est 4h56 et comme tous les jours, eh bien ce soir-là, on vous accompagne dans Charles Matin sur RMC. On se réveille avec vous comme tous les matins, même s'il fait froid encore ce matin, n'est-ce pas Géraldine Demorier, salut.
Eh oui, salut Martin, bonjour à tous. Bah oui, ça caille encore, ça caille. J'ai eu peur de devoir gratter le pare-brise ce matin.
C'est bon, t'y as échappé.
Limite, mais j'y ai échappé.
Bah, il y en a peut-être certains qui ont dû le faire ce matin en sortant de chez eux. Venez nous le raconter, appelez-nous au 32-16 et nous faire un petit coucou au 32-16 pour nous raconter comment ça s'est passé le réveil chez vous. Puis on fera un point info météo complet dans un instant. On a plein de choses au programme ce matin. Et ce qui va nous animer, le sujet sur lequel on veut vous entendre ce matin, c'est celui sur l'assurance chômage, puisque le gouvernement l'a annoncé hier. Il va s'occuper lui-même de fixer les nouvelles règles de cette assurance chômage après l'échec des négociations entre le patronat et les syndicats. Les règles actuelles arrivent à échéance au 30 juin. Alors on a eu droit au fameux « tout est ouvert, aucune piste n'est privilégiée ». Mais la tendance, Géraldine, c'est quand même au durcissement.
Ah oui, clairement. Hein. Gabriel Attal a déjà avancé 3 pistes de travail pour cette nouvelle réforme. D'abord, la possibilité de raccourcir la durée d'indemnisation. Le montant de l'indemnisation pourrait aussi être diminué. Mais ce que préfère le Premier ministre, eh bien, c'est augmenter la durée de travail nécessaire pour toucher le chômage.
Travailler plus pour toucher le chômage, pour débloquer les aides. Pour toucher pas forcément plus, en tout cas. L'objectif de tout ça étant évidemment de tendre vers le plein emploi qui s'éloigne un peu, hein, d'après les dernières prévisions de l'INSEE. Le taux de chômage n'aura jamais été aussi haut depuis 3 ans. Voilà ce que disait l'INSEE au mois de mars. Venez nous dire ce matin, est-ce que c'est nécessaire de réformer l'assurance chômage dès maintenant? Est-ce qu'on pourrait pas continuer avec les mêmes règles? Bref, est-ce que c'est vraiment urgent de réformer cette assurance chômage? Est-ce que le gouvernement a raison de s'en prendre aux chômeurs? J'imagine que ça vous fait réagir ce matin. On vous attend évidemment aussi si vous êtes au chômage actuellement, si vous cherchez un emploi, on veut vous entendre. Est-ce que ça vous inquiète ces annonces de durcissement? Est-ce que ça vous inciterait à reprendre un travail? Venez nous le dire ce matin au 32-16. Vous avez évidemment la priorité et vous intervenez quand vous voulez. Vous pouvez aussi laisser vos messages sur l'appli RMC rubrique Direct Studio.
Et puis on va retrouver aussi tous nos rendez-vous dans la bande Anthony Morel qui va jouer les Robocop. Alex Biggerstaff lui nous emmènera à l'Hippodrome dans sa Story Sport. Et puis juste après 6h, c'est Manu Conso, Manu Le Chip, qui nous parlera d'une pratique ultra dangereuse qui se répand, ne pas passer le contrôle technique.
Ouais, c'est pas forcément rassurant tout ça, il nous parlera de tout ça donc juste après 6h Manu Le Chip. Mais d'abord à 4h59, juste avant 5h, je vais y arriver, je suis perdu dans les horaires, mais on va y arriver. Bon réveil à tous sur RMC, il est tout pile 5h.
RMC, Charles Matin.
Et pour tout savoir de l'info, à 5h, c'est Thomas Schnell qui est là. Bonjour Thomas.
Bonjour Martin, bonjour à tous. Une enquête ouverte pour tentative d'homicide volontaire dans l'affaire Kenji Girac. La grève des contrôleurs SNCF en mai semble écartée. Les syndicats s'apprêtent à signer avec la direction l'accord sur les fins de carrière. Et puis de nouvelles règles sur le chômage entreront en vigueur dès le 1er juillet.
Kenji Girac reste donc hospitalisé à Bordeaux.
Il assure s'être tiré dessus lui-même de façon accidentelle, mais une enquête est ouverte pour tentative d'homicide. La star révélée par l'émission The Voice n'a pas encore été auditionnée à cause de son état de santé. Pierre Bourget, que sait-on du coup de feu ?
Eh bien, tout s'est passé hier matin vers 5h30. Après avoir été averti, les secours trouvent près de sa caravane le chanteur gravement blessé à la poitrine. L'homme explique aux secours qu'il se serait tiré lui-même dessus en manipulant un pistolet qu'il venait d'acheter. Une enquête pour tentative d'homicide volontaire a donc été ouverte pour vérifier le récit du chanteur. Sa compagne a été auditionnée et une arme de poing sans chargeur a été retrouvée par les enquêteurs dans un fossé à côté de la caravane. Mais ce supposé accident embarrasse la communauté des gens du voyage, que ce soit dans l'aire de passage à ou devant l'hôpital. Personne n'a souhaité expliquer ce qu'il s'était passé la veille. Une dizaine de proches, dont la mère et le frère de Kenji, étaient à son chevet à l'hôpital, où des consignes de sécurité ont été passées aux agents de sûreté dans le secteur où se trouve Kenji Girac.
À Grande-Synthe, dans le Nord, le jeune passé à tabac ce week-end a été placé en garde à vue. Cet ado de 15 ans est le cousin d'un des deux mineurs mis en cause dans la mort de Philippe Kopman. Piégé dans un guet-apens en début de semaine dernière, les deux suspects ont reconnu les faits. Contre la violence des jeunes, le maire de Béziers instaure un couvre-feu pour les moins de 13 ans. Robert Ménard a pris un arrêté municipal interdisant la présence de ces jeunes dehors après 23 heures. Il avait déjà pris une décision similaire en 2014. Jean-Wilfried Forquès a suivi une patrouille de la police municipale cette nuit pour AMC dans les rues de Béziers.
Direction un quartier difficile, Benjamin est au volant. Fabrice Cantel, le directeur de la police municipale, l'accompagne.
Là, on est sur un secteur où il y a des mineurs de moins de 13 ans et qui servent régulièrement pour le trafic de drogue.
Mais les rues sont désertes.
Et bien, ce soir, c'est pas la fin de semaine, c'est pas vendredi, donc il y a peu de jeunes dans les rues, beaucoup moins que d'habitude.
Le maire de Béziers était également sur le terrain cette nuit. En 2014, il avait instauré un couvre-feu similaire, invalidé par le Conseil d'État 10 ans plus tard. Selon Robert Ménard, le contexte a changé.
Ils sont de plus en plus jeunes, de plus en plus violents. Ça touche les garçons, mais ça touche aussi les filles. Et c'est pour ça qu'il ne faut plus l'accepter.
Et les Biterrois, rencontrés dans la nuit, apprécient l'initiative de l'élu.
C'est parfait, tant mieux, il était temps. Décision qui peut, j'espère, permettre de responsabiliser les parents.
Il va falloir qu'il y ait une surveillance qui soit certainement accrue de la part des forces de l'ordre, mais pour moi, oui, ça, c'est une bonne chose.
Un couvre-feu contesté par la Ligue des droits de l'homme qui envisage de déposer un recours.
En Guadeloupe, le couvre-feu pour les mineurs est entré en vigueur hier soir à Pointe-à-Pitre pour un mois renouvelable entre 20h et 5h du matin.
Les syndicats de la SNCF renoncent à faire grève pendant les ponts du mois de mai.
Un accord sur les fins de carrière a été trouvé avec la direction. Il prévoit notamment une amélioration du dispositif de retraite anticipée pour les cheminots ayant occupé des postes à pénibilité élevée, Cassandre Brault.
La réforme des retraites les faisait travailler 2 ans de plus, mais avec ce nouvel accord entériné hier, ce sera seulement 1 an, voire moins. Ce plan de cessation anticipée d'activité est accessible à tous les cheminots de la SNCF. Il varie selon l'ancienneté et la pénibilité de l'emploi pour aller jusqu'à 18 mois non travaillés où le salarié est rémunéré à 75%. Autant de temps gagné sur la réforme des retraites pour Dominique Falacara, secrétaire fédéral de la CGT cheminot en charge du pôle protection sociale.
L'objectif affiché de la CGT, en tout cas, nous on l'avait présenté comme ça, dès septembre 2023, c'était d'annihiler les effets de la réforme des retraites.
Mais d'après Annie Jolivet, chercheuse économiste au Conservatoire national des arts et métiers, c'est un dispositif loin d'être unique et déjà présent dans de grandes entreprises comme Michelin et Orange.
Ce qu'on pourrait appeler des pré-retraites d'entreprise, hein. C'est-à-dire qu'en fait les salariés ils restent dans les rôles du personnel, mais ils sont en fait sur des périodes de temps non travaillées pendant la dernière partie de leur vie professionnelle.
Les futurs cheminots qui seront embauchés pourront aussi bénéficier de cette nouvelle cessation anticipée d'activité.
La direction a également proposé la création d'un échelon d'ancienneté supplémentaire pour améliorer la rémunération des cheminots en fin de carrière.
Le gouvernement reprend la main sur l'assurance chômage.
Les négociations n'ayant pas abouti, notamment sur l'emploi des seniors, l'exécutif fixera lui-même de nouvelles règles d'indemnisation. Conséquence de l'échec des pourparlers entre partenaires sociaux, les conditions seront durcies à partir du 1er juillet prochain, Cyprien Pezeril.
Le gouvernement l'assure, cet échec est un crève-cœur, mais il va maintenant reprendre la main. Sinon, à partir de juillet, les chômeurs ne seront plus indemnisés. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'à partir de cette date, la convention actuelle prendra fin. Il faudra donc de nouvelles règles. Et justement, quelles règles ? Eh bien, le ministère du Travail le jure. La feuille est blanche, rien n'est décidé, les partenaires sociaux seront consultés. Mais en réalité, le cadre est déjà bien fixé. Gabriel Attal défend un nouveau tour de vis, avoir travaillé plus de mois pour pouvoir toucher le chômage. En mars, il évoquait aussi une durée d'indemnisation raccourcie. 18 mois aujourd'hui, ce pourrait être réduit, mais pas en dessous de 12. Enfin, seule limite que doit respecter le gouvernement, que les chômeurs restent mieux protégés quand la situation économique est mauvaise et inversement quand elle est bonne. Le contenu précis de ce nouveau décret sera connu début juin.
Vous avez entendu les pistes hein, du gouvernement, Cyprien Pezeril nous les donnait. Venez nous dire ce que vous en pensez ce matin. Est-ce que le gouvernement a raison de s'en prendre aux chômeurs ? Est-ce que c'est urgent de réformer l'assurance chômage ? Venez nous donner vos avis ce matin, venez témoigner également, si vous êtes au chômage actuellement, qu'est-ce que vous pensez, comment vous réagissez quand vous entendez ça ce matin, quand vous entendez les pistes pour durcir les conditions d'accès à l'assurance chômage ? Est-ce que ça vous inquiète ? Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée ou non ? Vous nous appelez ce matin au 3216 et sur l'appli RMC, vous laissez vos messages dans la rubrique Direct Studio.
La grève jeudi des contrôleurs aériens risque d'être très suivie avec des annulations de vols à attendre. Conséquence de l'échec des négociations après 15 mois de discussion entre la direction de l'aviation civile et le principal syndicat. Le personnel attendait des hausses de salaire face à la refonte du contrôle aérien français. Dans l'ouest parisien, la 13 restera partiellement fermée jusqu'au 1er mai au moins, annonce la préfecture des Hauts-de-Seine, après la découverte d'une fissure dans la chaussée qui a provoqué la fermeture de l'axe entre Paris et la Normandie dans les deux sens depuis jeudi soir.
Et ça ne fait pas plaisir à Géraldine Demory qui faisait la grimace au moment où tu annonçais ça.
Ouais.
Thomas, l'autre mauvaise nouvelle, enfin je ne sais pas si c'est une mauvaise nouvelle, en tout cas le froid reste présent en France avec des températures température qui devrait encore passer sous les 0 degrés ce matin.
Mauvaise nouvelle peut-être pour les agriculteurs très vigilants avec ces températures négatives enregistrées depuis ce week-end. Ils redoutent des gelées, c'est toute la saison qui est en jeu. Alors les techniques pour se protéger se multiplient, mais certaines restent très chères, Martin Cadoret.
Oui, il y a la méthode des bougies pour réchauffer l'air. Il faut en allumer des centaines. Ça coûte 2 à 3 000 euros par hectare. Opération à renouveler à chaque nuit de gel. Les professionnels préfèrent donc investir sur le plus long terme avec la méthode de l'arrosage, par exemple. On projette de fines gouttelettes qui forment de petits cocons de glace sur les bourgeons et vont paradoxalement les protéger du gel. Le problème, c'est qu'il faut des autorisations pour pomper qui peuvent prendre des années. Autre méthode, les tours à vent, des sortes d'éoliennes qui vont capturer l'air chaud en hauteur pour le redistribuer quelques mètres plus bas, coût autour de 40 000 euros pour 4 hectares. Des investissements pas ou peu subventionnés, mais devenus indispensables, car le système assurantiel, lui, ne fonctionne plus, explique Françoise Roch, présidente de la Fédération nationale des producteurs de fruits.
Quand vous avez une assurance, il se base sur la moyenne des 3 dernières années de récolte. Et le problème, c'est que comme on a des coûts durs, vous avez des moyennes de plus en plus basses. Et donc, si vous arrivez un coup dur, vous êtes indemnisé extrêmement peu.
Résultat, en 2023, seuls 12% des arboriculteurs avaient souscrit une assurance récolte.
Et puis, si je vous dis une tour Eiffel entièrement faite en allumettes, ça vous rappelle forcément un film et un personnage en particulier. Eh bien, sachez que l'agglomération de Laval a également son passionné de bricolage. Il s'appelle Yann Bourdon. C'est un employé municipal à Launay-Villiers. Et lui, il a réalisé une tour Eiffel de 8 mètres de haut, 6 mois de travail, 35 palettes, 10 000 vis. La réalisation prend au milieu du rond-point du village, des matériaux qu'il a récupérés ça et là. De la créativité pour réaliser le site emblématique, bien sûr, de Paris il y a quelques semaines. Maintenant, des JO. Il explique avoir pris sur Internet tous les éléments de la vraie Tour Eiffel. Il a réduit à l'échelle 1/68e. Le plus difficile, raconte à nos confrères de France Bleu, que c'est la flèche qu'il a dû refaire plusieurs fois pour qu'elle tienne.
Tu m'étonnes, c'est tout fin. Peut-être qu'il se méfie si on l'invite mercredi soir, ce évidemment, référence au dîner de con. Pour ceux qui n'avaient pas la référence, pour une fois que j'ai une référence cinématographique, j'en profite. Au-delà de ça, c'est quand même assez impressionnant.
8 mètres de haut, 35 palettes.
Ouais, ça prend du temps.
En vrai, c'est un sacré boulot.
Ouais, c'est un sacré boulot. Et félicitations donc à Yann Bourdon, donc employé municipal à Launay-Villiers, pour cette œuvre. On peut appeler ça une œuvre d'art, je pense. 8 mètres de haut pour une tour Eiffel en allumettes. Merci Thomas. On te retrouve dans une demi-heure pour un nouveau journal. Et on va filer au 32-16. Tout de suite, retrouver Emmanuel qui nous appelle d'Eure-et-Loire. Bonjour Emmanuel.
Bonjour à vous tous.
Comment ça va ce matin, Emmanuel?
Eh bien, écoutez, ça va bien. On se lève, on commence la journée en bonne forme.
En bonne forme, oui. Alors, on parlait du froid, là, à l'instant, et tout à l'heure avec Géraldine. Comment ça se passe? Vous nous appelez d'Eure-et-Loire à Épernon, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Comment ça se passe chez vous ce matin?
Eh ben, on a gratté un peu le pare-brise ce matin, mais ça va.
Ouais, il n'a pas fallu gratter trop fort, la couche n'était pas trop épaisse, ça va?
Non, ça a été, merci.
Et du coup, en route pour le boulot maintenant?
Eh bien, en route pour chercher du boulot.
En route pour chercher du boulot, parce que vous êtes au chômage, donc?
Voilà, c'est ça, je suis au chômage et du coup, je voulais réagir par rapport à votre sujet des chômeurs.
Alors justement, ouais, quand on annonce un durcissement des règles du chômage à venir pour le 1er juillet, là, comment vous réagissez, vous, quand vous entendez ça?
Eh bien, je suis assez d'accord parce qu'il y a beaucoup d'abus, mais d'un autre côté, je suis un peu énervé ou contrarié. Mmh. Parce qu'il n'y a pas de. Quand on a un certain niveau, il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas de.
C'est-à-dire, il n'y a personne qui vous accompagne dans vos recherches d'emploi?
Alors, on m'a accompagné, j'ai fait mon premier rendez-vous Pôle emploi France Travail, pour le coup. Et on m'a dit, comme j'ai un certain niveau d'études et un certain niveau de compétences, on m'a dit, bon, bah écoutez, on vous aime bien, mais il n'y aura pas beaucoup d'aide pour vous. Et du coup, moi, je veux bien qu'on réduise les aides et qu'il y ait des abus, mais par contre, quand on a vraiment besoin d'un accompagnement sur un certain...
On vous a pas proposé de job qui était en rapport avec vos qualifications?
Bah, pas encore. Alors moi, c'est tout nouveau, hein, je viens d'arriver, mais on m'a clairement fait comprendre qu'en fait, il faudrait mieux que je me débrouille tout seul avec des réseaux sociaux type LinkedIn ou Indeed, ou voilà. Par contre, sur le reste, non.
Et vous cherchez dans quel secteur?
Oh bah, commercial après à vendre.
Ouais. Oui, voilà. dans la vente. Quand on voit les durcissements, alors l'une des pistes privilégiées par Gabriel Attal, c'est de travailler plus longtemps pour toucher le chômage. Actuellement, il faut travailler 6 mois sur les 2 dernières années pour pouvoir toucher le chômage. Il veut augmenter cette durée. Ça vous paraît une bonne idée, vous, qui êtes au chômage, Emmanuel? Ça pourrait inciter à reprendre le boulot plus rapidement?
Bah, je sais pas si ça peut inciter ou pas inciter. Moi, je suis pas contre reprendre le travail, mais par exemple, en fait, mon grief est surtout que, par exemple, voilà, j'étais VRP et j'ai appris en inscrivant à Pôle emploi France Travail que la partie variable de mon salaire n'était pas prise en compte dans mon indemnité, par exemple.
Ah oui, c'est la base fixe.
Ouais, mais ça fait
j'ai quand même cotisé sur cette partie variable, j'ai quand même payé des impôts, peu importe, des impôts, des cotisations. Et quand j'arrive à Pôle emploi, France Travail, on me dit ah ben cette partie elle est pas.
Ouais. Oui, donc c'est un peu incompréhensible pour vous de pas être aussi bien indemnisé et pourtant c'est vous cherchez du travail, c'est pas faute de, enfin voilà, vous n'êtes pas resté chez
pas
vous.
Comme j'ai dit à la personne que j'ai rencontrée, elle m'a dit bon bah vous êtes indépendant, autonome. On se revoit dans 6 mois, j'ai dit madame, dans 6 mois en fait, soit j'aurais retrouvé un travail dans ce que je cherche, soit je serais cariste cariste ou avec ma licenciée.
On comprend évidemment que vous ayez du mal à accepter, vu ce que vous nous racontez, le durcissement des règles d'accès au chômage souhaitées par le gouvernement et qui pourrait entrer en vigueur à partir du mois de juillet. Merci beaucoup Emmanuel de nous avoir appelé ce matin, bon courage pour la recherche de boulot.
Eh bien, merci à vous et ça va bien se passer.
Vous recherchez en Eure-et-Loire, hein, forcément ?
Non, dans la région parisienne, plutôt côté ouest ou centre-Val de Loire.
Si jamais il y a un employeur qui cherche un commercial, qui n'hésite pas à nous appeler, on mettra en relation avec Emmanuel. Merci beaucoup de nous avoir appelé.
Merci beaucoup.
Bonne journée. Et Emmanuel, faites comme Emmanuel, hein, appelez-nous au 32-16 pour réagir à ce durcissement prévu, annoncé des règles d'accès au chômage. Le gouvernement qui reprend la main après l'échec des négociations et donc qui veut durcir les règles d'accès au chômage. On continue le débat toute la matinée sur RMC au 32-16. Vous nous appelez, vous pouvez aussi laisser vos messages sur l'appli RMC, rubrique direct au studio.
RMC, Charles Matin, êtes-vous bien réveillé ?
Allez, à 5h14, on joue tous ensemble. On joue avec l'actu, vous le savez, hein, tous les matins, on vous demande d'être attentif. Vous suivez l'actu avec nous dans les journaux, dans les rendez-vous d'infos, et vous tentez de trouver la réponse à la question d'actu du jour, Géraldine.
Quel chanteur a été hospitalisé hier après une blessure par balle ?
On en parle partout, hein, de ce chanteur depuis hier. Vous envoyez le mot actu par SMS au 73216. Si vous avez la réponse, actu par SMS au 73216 pour gagner
un radio réveil de la marque Muse. Et puis si vous êtes tiré au sort, vous serez avec nous à 6h20.
Quel chanteur a été hospitalisé hier après une blessure par balle? Si vous avez la réponse, vous envoyez le mot actu par SMS au 73216. Bonne chance à tous.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi.
Vous êtes bien réveillé sur RMC avec Muse. Toute une collection d'enceintes portables, de radios, casques, platines vinyles et plus encore à découvrir sur muse-europe.com.
RMC, police justice.
Comme tous les matins, votre rendez-vous RMC PJ à cette heure-là avec le chef du service police justice d'RMC, Guillaume Biais. Bonjour.
Bonjour Martin, bonjour Géraldine, bonjour à tous.
Ce matin, Guillaume, vous nous racontez l'histoire de cette jeune femme condamnée à de la prison pour avoir littéralement harcelé le chanteur britannique Harry Styles.
Quelques notes que vous reconnaissez immédiatement, issues du troisième album de Harry Styles, des notes qu'une Brésilienne de 35 ans a, semble-t-il, beaucoup trop écouté. Cette jeune femme, totalement sous le charme du chanteur, a complètement perdu la raison au point de harceler l'artiste. Elle lui a envoyé, tenez-vous bien, 8000 cartes en l'espace d'un mois. 8000. Alors, elle ne les a pas toutes rédigées à la main, non. La plupart ont été commandées en ligne, puis expédiées à son adresse, mais certaines autres étaient bien manuscrites. Elle lui a aussi adressé des faire-part de mariage, et la jeune fan est même parvenue à lui faire remettre en main propre deux de ses fameux courriers. Sans rien dire à sa famille, elle a quitté le Brésil pour s'installer quelque temps dans une auberge de jeunesse de l'ouest de Londres, pour s'approcher encore un peu plus de son idole. Bref, la justice britannique s'est saisie de l'affaire. Au procès, la jeune femme a plaidé coupable. Elle a été condamnée à 3 mois de prison et elle n'est pas prête de rencontrer Harry Styles puisque les juges lui ont interdit de le contacter et interdit d'assister à n'importe quel événement en présence du chanteur pendant les 10 prochaines années. Mais elle peut toujours écouter sa musique.
De consolation, donc elle peut écouter sa musique. Merci beaucoup Guillaume Biais, leader du groupe, non pas One Republic comme Harry Styles, mais du groupe RMC Police Justice.
À suivre dans Charles Matin sur RMC.
Durcir les règles de l'assurance chômage. Est-ce que c'est vraiment urgent, faute d'accord entre le patronat et les syndicats? Le gouvernement a repris la main sur les futures règles d'indemnisation. Elles vont entrer en vigueur au 1er juillet. Et c'est bien un tour de vis qui s'annonce. Il faudra travailler plus longtemps pour accéder à l'indemnité. Et la durée devrait être réduite peut-être à 12 mois au lieu de 18 aujourd'hui. Qu'en pensez-vous? Venez nous le dire ce matin si vous êtes demandeur d'emploi, si vous avez déjà connu le chômage. Est-ce que vous pensez que c'est une solution efficace? Le 32-16, vous êtes ouvert. Vous avez aussi l'appli RMC rubrique direct studio pour laisser vos messages. Mais avant cela, vous le savez, c'est RMC s'engage avec vous. Solène Leroux arrive dans ce studio pour venir en aide à Thomas et Mélissa qui vivent dans un logement social insalubre.
RMC jusqu'à 6h30.
Charles Matin.
RMC jusqu'à 6h30. Charles Matin. Martin Bourdin.
Merci d'avoir choisi RMC ce matin, 5h18.
Vous avez un problème? RMC a la solution. RMC s'engage avec vous.
RMC s'engage avec vous grâce à Solène Leroux ce matin. Bonjour Solène.
Bonjour Martin, bonjour Géraldine.
Solène, on le répète depuis ce matin, il a fait très froid la nuit dernière, il fait très froid encore ce matin, avec des conséquences très concrètes pour certains.
Et je vous emmène à Montreuil, en proche banlieue parisienne, chez Thomas et Mélissa, un couple de trentenaires. En début d'année, ils emménagent dans un logement social tout neuf, un appartement avec deux chambres pour agrandir la famille, explique Thomas. Mais dès l'état des lieux, le couple constate que le lieu n'est pas en bon état, visiblement très humide.
C'était enfermé, on va dire, il n'y avait pas d'ouverture, on va dire. Donc on avait des difficultés à ouvrir les portes en bois aussi, elles avaient gonflé avec l'humidité, comme des auréoles au niveau des murs, des traces jaunes, noires même au niveau de la cuisine. Dans la salle de bain, on a carrément un mur qui s'effrite.
Et ce n'est pas tout, la chaudière ne fonctionne pas depuis plus de deux mois pour se doucher et se chauffer, c'est le système D.
On chauffait un petit peu d'eau chaude et on se lavait aux gants, quoi, un petit peu comme à l'époque. Et on a dû composer avec ce qu'on avait, quoi, avec les couettes, avec les bouillottes, même avec ça on avait froid.
Pendant ce temps, Thomas et Mélissa continuent évidemment de payer le loyer, 1 180 € par mois tout de même.
Et si je comprends bien, le bailleur social ne fait rien?
Pas grand-chose en tout cas, c'est la société Inly, leader en Île-de-France dans la gestion des logements sociaux intermédiaires. Il s'adresse aux salariés des classes moyennes et aux jeunes actifs. Thomas les a contactés plusieurs fois, un technicien est passé, un plombier aussi, ça ne fonctionne toujours pas.
Mais le bailleur a des obligations quand même, Solène, quand il loue un logement?
L'obligation d'entretien et de décence, et ça comprend un chauffage qui chauffe. C'est au bailleur de s'occuper de tout, même en cas de malfaçon dont il ne serait pas à l'origine. Et dans le cadre d'un logement social, une sanction est prévue. Si le bailleur tarde à remettre en état, les autorités peuvent retirer la location logement dont il bénéficie.
On vous connaît, Solène. On imagine que vous avez gentiment rappelé Inly à ses obligations. Que répond l'organisme?
Eh ben que l'entreprise qui devait faire les travaux a fait faillite. Bon, ça, Thomas s'en fiche un peu. Mais ce matin, on n'a que des bonnes nouvelles. Grâce à nous, une chaudière électrique provisoire doit être installée avant la fin de la semaine. Pour l'humidité, un séchoir électrique doit être posé pour assécher les murs, refaire les peintures et stopper les infiltrations. Et ce n'est pas tout. Inly s'engage à faire un geste commercial en guise de dédommagement. On vérifiera évidemment tout ça avec la plus grande attention, vous le savez.
Évidemment, on compte sur vous et vous nous tiendrez au courant en espérant pour Thomas et Mélissa qu'une solution durable leur soit aussi apportée. On rappelle l'adresse pour vous contacter, Solène, et toute l'équipe d'RMC s'engage avec vous. RMC avec vous at rmc.fr. 5h21.
RMC, à vous de nous dire.
Est-ce que c'est urgent de durcir les règles de l'assurance chômage? Le gouvernement reprend la main après l'échec des négociations entre le patronat et le syndicat. De nouvelles règles doivent arriver au 1er juillet. Gabriel Attal a déjà dit qu'il souhaitait durcir les conditions d'indemnisation sur la durée d'indemnisation, mais aussi travailler plus longtemps pour toucher l'allocation chômage. Voilà ce que souhaite Gabriel Attal. Les syndicats, eux, estiment que telles mesures vont précariser encore davantage les demandeurs d'emploi. On vous demande ce matin ce que vous en pensez, si vous êtes chômeur ou pas. D'ailleurs, venez nous dire ce que vous pensez de cette perspective.
Ah bah tiens Martin, je te coupe justement. Tout à l'heure, on avait Emmanuel qui témoignait là sur ce sujet.
Et qui cherche un travail.
Et bah tiens, c'est la magie d'RMC. On a Katia là, qui vient nous envoyer un message. Elle a entendu Emmanuel qui est à la recherche d'un job de commercial. Et elle nous dit que Géodis recherche un commercial en région Centre-Val de Loire, justement. Le recrutement, ça se passe sur geodis.com. Donc voilà, on peut aller voir.
Si Emmanuel est encore à l'écoute, qu'il aille voir là-bas sur geodis.com.
On va donc les mettre en relation.
Merci beaucoup Katia pour le message sur Direct Studio. On va aller voir au 32-16. Il y a Cyril qui nous appelle depuis les Yvelines. Bonjour Cyril.
Bonjour.
Et comment ça va ce matin Cyril?
Ça va tranquillement.
Dans un VTC déjà sur la route j'imagine?
Oh oui.
On parle du chômage ce matin. Cyril, le gouvernement qui envisage de durcir les conditions d'accès à l'assurance chômage. Est-ce que c'est une bonne idée ?
Pas du tout.
Pourquoi ?
Tout simplement, moi j'étais au chômage, donc je sais un peu ce que c'est. Ouais. Gabriel Attal, lui, n'a jamais travaillé, donc il ne saura jamais c'est quoi les joies du chômage.
Parce que visiblement, le chômage. Il a du travail,
comme moi j'ai du travail, ouais. Parce que voilà, moi j'ai bossé un petit peu aussi. Mais lui, il n'a jamais connu le monde du travail, il ne connaîtra jamais c'est quoi les joies du chômage. Parce que visiblement, le chômage, c'est la fête. Il y en a qui en abusent, c'est vrai. C'est cela qu'il faut aller chercher, je suis d'accord. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Enfin, les gens, plus vous vieillissez, plus c'est dur de retrouver du boulot. Et il y en a qui sont licenciés parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est des licenciements économiques pour certains. Donc, pour retrouver du boulot, quand vous avez travaillé 30 ans, 35 ans dans la même société, je ne vois pas comment ils vont faire. Moi, j'ai un ami qui l'est actuellement. Mmh. Et il me racontait, il a plus de 40 ans, donc c'est difficile parce que soit il est trop âgé, soit il est trop qualifié, donc trop cher. Et pour trouver un poste à salaire équivalent, c'est compliqué.
Il veut retrouver un travail, mais c'est compliqué pour lui de chercher. Bougez pas, Cyril. On va accueillir Cédric également, qui nous appelle depuis Lyon et qui n'a pas forcément le même avis que vous, si je comprends bien. Bonjour, Cédric.
Oui, bonjour.
Bonjour, Cédric.
Comment vous réagissez à ce que dit Cédric ? Le même avis, mais moi, je suis assez d'accord avec Gabriel Attal.
Pourquoi ?
Simplement, peut-être. Parce que aujourd'hui, comme disait l'autre personne, il y a des gens qui abusent un peu du système.
17% les chiffres qu'on nous disait hier, 17% des demandeurs d'emploi sont jugés aujourd'hui en insuffisance de recherche et ont été radiés.
Mais il faudrait que tout le monde paye, du coup, pour.
C'est ça.
Ouais, pour vous, il faut que tout le monde paye, Cédric ?
Ouais, on arrive, je pense, déjà aux limites d'un système. Là, on est en train de le voir un petit peu sur pas mal de choses. Le chômage en fait partie. Moi, dans mon expérience professionnelle, j'ai été au chômage en début de carrière, 4 mois. J'ai trouvé du travail au bout de 4 mois. J'ai travaillé en Allemagne et j'ai trouvé que le système était plutôt malin. C'est-à-dire que pendant 6 mois, vous êtes accompagné. Vous n'avez pas de baisse de salaire, vous avez un salaire à taux plein et pendant 6 mois, vous êtes tranquille pour faire vos recherches, vous ne posez pas de questions, est-ce que je vais avoir une baisse, est-ce que je vais être payé ? Non,
mais c'est du temps qui peut être utile aussi pour trouver un emploi qui vous convient. J'imagine que c'est ce que Cyril défend. Cyril ?
Oui.
Comment vous réagissez à ce que dit Cédric ?
Moi, je comprends après, mais je comprends ce qu'il disait, qu'il y a des gens qui en abusent. Ça, on peut pas le nier. Mais il y a aussi des gens qui sont au chômage, des fois, par la force des choses. Mmh. Ils n'ont pas le choix parce qu'il y a un licenciement économique. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de sociétés qui ferment, qui mettent la clé sous la porte et qui se retrouvent avec des gens au chômage. Mais c'est souvent des gens qui ont travaillé 30, 35 ans, 40 ans dans une même société. C'est compliqué. Quand vous avez entre 20 et 30 ans, c'est facile de retrouver un travail. En général, on n'est pas super qualifié, on est tout jeune, on arrive, c'est pas dur. Quand vous avez 30 ans dans la même boîte et que vous êtes monté dans les échelons, retrouver un poste équivalent ou un salaire équivalent, c'est compliqué. Moi, je vois bien ce qu'ils m'envoyaient pour l'emploi. Ils m'envoyaient des métiers qui n'avaient rien à voir avec ce que je faisais. Quoi.
Et vous aviez besoin de ce temps-là pour trouver un emploi qui vous convenait ?
Non, c'est encore différent, moi. Parce que moi, quand je me suis retrouvé au chômage, j'avais déjà l'idée de monter une entreprise. Donc, j'ai été aidé pour monter une entreprise. Mais par contre, j'en recevais quand même des offres d'emploi qui n'avaient rien à voir avec ce que je faisais avant.
Et c'est un peu le problème que vous dénoncez ce matin. Merci beaucoup, Cyril, de nous avoir appelé ce matin depuis les Yvelines. Je remercie également Cédric d'avoir défendu son point de vue au 32-16. Le débat continue, on le voit, il y a débat, vous n'êtes pas tous d'accord. On continue à en parler toute la matinée dans Charles Matin, puis dans Apolline Matin, tout à l'heure à partir de 6h30 avec Sébastien Skreps. Venez nous dire ce que vous pensez de l'annonce de ce durcissement des règles du chômage. Vous avez le 32-16, vous avez l'appli RMC, rubrique Direct Studio.
RMC, Charles Matin.
Dans un instant, le journal de 5h30, mais avant ça, Géraldine, ta solution conso.
On laisse le portable de côté, on va même être récompensé pour ça.
RMC, 5h-6h30, Charles Matin. RMC, 5h-6h30, Charles Matin, Martin Bourdin.
5h27 sur RMC.
RMC,
la solution conso.
La solution conso, comme tous les matins, de Géraldine, de Maury. Géraldine, ce matin, tu nous expliques régulièrement comment gagner de l'argent avec notre portable grâce à différentes applis. Ce matin, tu prends un peu le contre-pied. Tu nous dis qu'on peut aussi être récompensé en laissant notre téléphone de côté, notamment au restaurant.
Ouais, vous, c'est quand même super agaçant d'avoir le téléphone qui sonne sans arrêt au resto. Eh bien, il y a plusieurs restaurants qui ont mis en place cette idée de pour ne plus être dérangé. Vous laissez votre téléphone dans un panier ou dans une boîte fermée à l'entrée du restaurant. Et si vous tenez tout le repas sans le récupérer, vous repartez avec une récompense.
Challenge.
Il y a un restaurant à Vérone, en Italie, qui propose de repartir avec une bouteille de vin rouge, consommée avec modération, bien sûr. En France, dans le Tarn, à Albi, Kobe. Vous pouvez finir votre repas avec un café, un thé gratuit. Et ça marche dans la plupart des cas. Les clients jouent le jeu et retrouvent le plaisir de bavarder sans avoir les yeux rivés sur un écran.
Plaisir qu'on a parfois tendance à oublier, c'est vrai. Il existe même une appli, Géraldine, qui nous récompense de ne pas utiliser notre portable. C'est un peu paradoxal, non?
Bah oui, parce qu'il va d'abord falloir effectivement la télécharger, cette appli. c'est l'appli Hold, tenir. L'idée, c'est une appli qui est gratuite. Quand vous l'ouvrez, vous avez un écran bleu avec un minuteur. Et à partir de 20 minutes sans utiliser votre portable, vous allez gagner des points que vous pourrez ensuite convertir en bons d'achat. Au départ, c'était conçu surtout pour les étudiants, pour qu'ils ne soient pas distraits pendant les cours et qu'ils aient de meilleures notes. Et d'ailleurs, les résultats ont été vraiment très bons. Alors, on peut programmer des temps sans écran pour être tranquille, par exemple, les jours à la même heure. C'est une fonction qu'on retrouve sur la plupart des téléphones, mais avec l'appli, il y a le côté carotte avec les récompenses en bonus. On peut même se mettre en compétition avec d'autres pour voir qui tient le mieux.
Ah.
Allez Martin, je te défie. On voit à la fin de la semaine qui a le meilleur score.
Je pense que vu le temps d'écran sur mon téléphone, tu as des chances de gagner quand même.
Parce
que c'est pas sûr. J'étais à 6h et quelques, je crois, la semaine dernière.
On est dans les mêmes zones.
On fait le défi et puis on vous tient au courant en fin de semaine. Merci beaucoup Géraldine. Donc on retrouve évidemment ta chronique conso comme toutes les autres sur l'appli RMC en podcast.
Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, partenaire premium de Paris 2024.
La petite musique qui vous signale qu'on va se détendre avec le meilleur d'Arnaud Demange sur RMC. Arnaud nous parlait du pull noué sur les épaules hier. Et oui, ça revient à la mode.
Chez moi à Versailles, parce que je viens de là-bas quand même, il y a des gens qui portent des doudounes sans manches avec le pull noué sur les épaules. Pour les cas comme ça, il faut faire appel à Christina Cordula, c'est Madame Fashion Police, elle arriverait, frère. Oh là là, mon chéri, c'est pas possible. Le pull framboise sur les épaules, c'est pas le style. Et pourtant, Christina, avec mon pull framboise sur les épaules, je peux vous assurer qu'aux universités d'été du RPR en 91, j'en ai pécho de la Marie-Chantal stylée. Elle criait « Juppé, président, Juppé ». Président.
Arnaud Demange, qu'on retrouvera évidemment en direct à 7h20, 8h20, on verra tout à l'heure s'il a un pull noué autour des épaules ou pas dans la Pauline Matin avec Sébastien Krebs.
RMC, Charles Matin.
À 5h30 sur RMC, le journal, c'est avec Thomas Schnell. Bonjour Thomas.
Bonjour Martin, bonjour à tous. Un septuagénaire agressé à Marseille par une quinzaine de jeunes, il squattait le hall de son immeuble. Les syndicats promettent une mobilisation record, journée noire en perspective jeudi dans les aéroports. Les contrôleurs aériens appellent à la grève. Et puis les boulistes de Montmartre devront-ils abandonner leur boulodrome historique plutôt que d'être expulsés? Ils plantent la tente et annoncent même une ZAD en plein Paris.
Vive émotion hier dans la cité du Mail à Marseille après l'agression d'une personne âgée par une quinzaine de jeunes.
Deux mineurs et un majeur ont été placés en garde à vue. Le maire Benoît Payan condamne avec force cette agression inadmissible et lâche contre un résident de 74 ans qui rentrait tout simplement chez lui quand il a été frappé à coups de poing, de pied, de coups de couteau par des jeunes installés dans le hall de son immeuble. Il a accepté de témoigner avec son fils sur BFM TV, Nicolas Trénaud.
Boubacar Diallo est l'un des plus anciens habitants de l'immeuble, est rentré de la mosquée. Dans son hall d'entrée, des jeunes gens sont réunis. Comme d'habitude, ils ne dealent pas, mais certains fument du cannabis. Et comme d'habitude, M. Diallo leur dit de faire ça dehors. Mais cette fois-ci, les choses tournent mal avec l'un des jeunes et ses amis.
Il y avait trois de ses collègues derrière mon dos, m'ont saisi. Et lui, il a foncé sur moi. J'ai eu la chance de lui donner un coup de tête.
Certains des jeunes qui l'agrippent sont ses voisins. Il lui arrache sa canne et l'agresseur en face sort discrètement une lame.
Et il est revenu à la charge une deuxième fois encore. C'est là que j'ai senti qu'il m'a blessé. Il m'a tapé juste ici, au côté du cœur.
Cet homme de 74 ans parvient à monter chez lui et prévient les pompiers. Son pronostic vital n'est pas engagé, mais il prend conscience du choc.
Il voulait me tuer parce que la lame, elle est passée tout près du cœur. À l'hôpital, ils ont dit qu'il manquait un centimètre.
Son fils unique ne conçoit pas que son père puisse rester dans l'immeuble après cette agression.
Ça m'a en colère de voir que le respect est mort et que des jeunes que mon père a vu grandir puisse atteindre sa vie, quoi. J'aimerais comprendre.
Sorti de l'hôpital hier, Boubacar Diallo va mieux, mais compte désormais faire profil bas dans le hall.
Un jeune de 26 ans jugé aujourd'hui à Paris pour avoir menacé de mort le proviseur du lycée Maurice Ravel à Paris. Le chef d'établissement avait demandé à une élève de retirer son voile à l'intérieur de l'enceinte scolaire. Le proviseur a depuis quitté ses fonctions face au tombereau d'insultes et de menaces, dont cette publication du jeune appelé à comparaître, Marion Dubreuil.
Oui, c'est le grand frère d'une élève scolarisée à Ravel. Elle lui avait rapporté l'incident, arrivée au lycée. Sans avoir vu la scène, elle avait affirmé que son proviseur avait frappé une élève voilée. Dans la foulée, le jeune homme de 26 ans publiait sous pseudo « Il faut le brûler à vif, ce chien » sur un réseau social en ciblant le chef d'établissement. Ce responsable de projet spécialisé dans les transports a été renvoyé devant le tribunal le mois dernier. Une audience au cours de laquelle il a présenté ses excuses au proviseur et demandé un délai pour préparer sa défense. Le chef d'établissement, lui, n'assistera pas au procès pour des raisons de sécurité. Son avocat voit dans ce dossier la mécanique de la rumeur qui a conduit à l'assassinat de Samuel Paty. Une enquête pour dénonciation calomnieuse est toujours en cours.
Le chanteur Kenji Girac, toujours hospitalisé près de Bordeaux, après avoir été blessé par balle hier matin dans les Landes. Les circonstances de l'accident restent floues. L'arme a été retrouvée. Le chanteur de 27 ans assure qu'il s'est blessé lui-même, mais une enquête pour tentative d'homicide est ouverte. Une nouvelle arrestation à Grande-Synthe. Un mineur de 15 ans a été placé en garde à vue après l'agression mortelle de Philippe Kopman la semaine dernière. Il s'agit d'un cousin d'un des deux jeunes déjà mis en examen. Il avait été lui-même agressé ce week-end.
Les partenaires sociaux n'ont pas trouvé d'accord sur la réforme de l'assurance chômage.
Alors c'est l'État qui reprend la main et dès le 1er juillet, le gouvernement fixera de nouvelles règles avec en ligne de mire le durcissement des conditions d'obtention des indemnités pour inciter à la reprise d'activité. Une philosophie décriée par les syndicats, Alfred Orange.
Réduire les droits des chômeurs pour accélérer leur retour à l'emploi, c'est stigmatiser une catégorie de population fragile, s'insurge Dominique Corona, secrétaire adjoint du syndicat UNSA.
Ce gouvernement raconte une fable sur les chômeurs. Oui, effectivement, il y a 6 millions de demandeurs d'emploi. 2 600 000 sont effectivement indemnisés pour une indemnité de 1033 euros en moyenne. Croyez-vous franchement qu'à 1033 euros en moyenne, on n'est pas envie de trouver du travail pour vivre en France.
Surtout que l'efficacité d'une telle mesure n'est pas encore complètement démontrée, estime Clément Carbonnier, professeur d'économie à l'université Paris 8.
On a soit des études qui ne trouvent pas d'effet sur le retour à l'emploi, soit des études qui trouvent un petit effet sur le retour à l'emploi, mais qui en général est associé aussi à des emplois retrouvés qui sont de moins bonne qualité, à temps partiel ou en CDD plus court, et donc à plus long terme, peut annuler en fait l'effet en termes d'emploi.
Dans sa dernière note, le mois dernier, l'INSEE tablait sur un taux de chômage à 7,6% au premier trimestre 2024, un niveau que le pays n'avait pas connu depuis 3 ans.
Les prévisions qui ne sont pas forcément bonnes, mais le gouvernement qui veut quand même durcir les conditions d'accès au chômage. Est-ce qu'il a raison, le gouvernement, de s'en prendre aux chômeurs? Est-ce que c'est urgent de réformer l'assurance chômage? Vous nous le dites ce matin au 3216 et sur l'appli RMC Direct Studio. Venez témoigner notamment si vous êtes au chômage, si vous chercher un emploi actuellement. On veut vous entendre ce matin. Est-ce que ça vous inquiète, le 32-16 et l'appli RMC rubrique Direct Studio?
L'autoroute A13 ne rouvrira pas avant le 1er mai. La préfecture des Hauts-de-Seine le confirme. Les automobilistes contraints de prendre une déviation entre Vaucresson et le boulevard périphérique parisien. Fermé donc cette portion à cause de fissures découvertes dans la chaussée. De très fortes perturbations à prévoir jeudi dans les airs. Cette fois, les aiguilleurs du ciel sont en grève. Après l'échec des négociations sur les mesures accompagnant la refonte du contrôle aérien, Caroline Philippe, jeudi, tous les syndicats appellent donc à la grève.
Ce qui laisse craindre une forte mobilisation et des centaines de vols retardés ou annulés, sans savoir précisément quelle sera l'ampleur des perturbations, car les contrôleurs aériens ont jusqu'à ce midi pour se déclarer grévistes. Depuis 15 mois, les négociations patinent entre d'un côté la Direction Générale de l'Aviation Civile qui veut réformer la manière dont fonctionnent les services de navigation aérienne pour notamment faire face à la hausse du trafic aérien, et de l'autre, les syndicats qui ne sont pas contre, mais qui réclament en échange une hausse de leur salaire, des avantages en termes de primes, de congés ou encore de grilles de rémunération. En décembre dernier, les syndicats majoritaires des contrôleurs aériens s'étaient engagés à ne plus faire grève jusqu'à la fin des Jeux Olympiques sur les questions d'inflation en contrepartie d'une augmentation du montant de leurs primes.
Les syndicats de la SNCF renoncent à faire grève pendant les ponts du mois de mai. Un accord sur les fins de carrière a été trouvé avec la direction. Il prévoit notamment une amélioration du dispositif de retraite anticipé pour les cheminots ayant occupé des postes à pénibilité élevée.
Cette tente ont été plantées au sommet de la butte Montmartre contre la tentative d'expulsion des amateurs de pétanque de leur boulodrome.
Oui, pour sauvegarder leur boulodrome où ils s'adonnent à la pétanque depuis 1971, les licenciés du club Le Pic Abbesse Pétanque organisent la mobilisation sur la très chic avenue Junot. La mairie entend reprendre possession du terrain. Le Conseil d'État lui a donné raison. Les boulistes annoncent camper jour et nuit pour sauver ce qu'ils estiment être un des derniers bastions du Paris d'antan, Romain Poiseau.
Des toiles de tente en bordure de terrain de pétanque,
Nathalie, jeune retraitée, est prête à dormir ici toutes les nuits s'il le faut pour défendre son jardin d'Éden.
Mais ici, c'est ma famille. Je ne vais pas aller marcher seule dans les rues, je ne vais pas aller me mettre dans un café. Je vais venir ici.
Jean-Charles, lui, ne campera pas sur le terrain de boules.
Non, moi, je campe plus. Moi. J'ai campé quand j'étais louveteau.
À 89 ans, il a vu la création du club de pétanque en 1971.
Pour le restant de mes jours, j'espérais pouvoir continuer à jouer aux boules, rencontrer les copains. Ça me fait mal au cœur.
Le Conseil de Paris a confié pour 12 ans cet espace à un hôtel particulier mitoyen pour en faire un parc modèle en matière de biodiversité, ouvert à tous. On se trompe de combat pour Éric Elmosnino, comédien et bouliste.
Il n'y a pas besoin de rajouter des chèvres et de poules. Il existe déjà cet endroit de partage et de convivialité. J'ai l'impression que maintenant, Paris, c'est plus une ville où tu peux vivre. C'est une ville, c'est un musée, quoi.
De son côté, Oscar Contet, l'hôtelier de luxe, défend la volonté de créer un espace ouvert à tous.
C'est quoi la solution? Qui privatise l'endroit, qui continue à se mettre des caisses pas possibles et que ça dégénère à 2h du mat.
Et il l'avoue, l'attractivité du parc aura pour effet d'augmenter de 30% sa clientèle pour le déjeuner.
Et vous avez entendu cette histoire hein, des boulistes de Montmartre. Est-ce que vous les soutenez? Tiens, est-ce qu'ils ont raison d'installer des tentes au sommet de la butte Montmartre pour protester contre cette tentative d'expulsion? Vous voulez le dire? Appelez-nous au 32-16. Est-ce que vous les soutenez, ces amateurs de pétanque? Vous appelez le 32-16 et vous laissez vos messages sur l'appli RMC, rubrique direct studio. Les courses, Thomas, aujourd'hui c'est à Compiègne.
À 13h55, le favori de la Dream Team des courses RMC, le numéro 6, Quelle Story, l'outsider numéro 9, Attaque Massive, le 6 et le 9, les courses, on les vit en direct sur RMC Découverte.
Merci beaucoup Thomas Schnell, on te retrouve demain pour des nouveaux journaux à partir de 4h30, 5h40 sur RMC, on joue ensemble.
RMC, Charles Matin, êtes-vous bien réveillé?
Et on joue avec l'actu comme tous les matins. Vous connaissez le système, on vous pose une question, vous devez y répondre pour gagner un joli cadeau. Géraldine, la question du jour, c'est quoi?
Quel chanteur a été hospitalisé hier après une blessure par balle?
La réponse, vous l'avez entendue partout dans les journaux ce matin et depuis hier même sur RMC. Si vous avez la réponse, vous envoyez le mot actu par SMS au 732-16. Actu par SMS au 732-16.
Il y a un Radio Réveil de la marque Muse à gagner si vous avez la bonne réponse.
Quel chanteur a été hospitalisé hier après une blessure par balle? Vous envoyez actu par SMS au 732-16. Bonne chance à tous.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi. Les indiscrets RMC.
Une plongée dans les coulisses de l'actu ce matin, c'est avec Nicolas Pelletier. Bonjour Nicolas.
Bonjour Martin, bonjour Géraldine.
Bonjour.
La flamme olympique arrivera le 8 mai en France, à Marseille. Et c'est la grande inconnue de ce moment d'histoire, c'est le nom du porteur. Et là vous allez nous faire un peu rêver Nicolas, puisque tous les regards se tournent vers Zinedine Zidane et Florent Manodou.
Oui, et cette arrivée dans la cité phocéenne doit montrer que les Jeux Olympiques en France ont débuté. Et pour lancer cette dernière ligne droite, Paris 2024 doit choisir un grand nom pour descendre la torche du BLM. Et qui d'autre que la légende du foot français est natif de Marseille pour marquer l'histoire. Dès la révélation des premiers détails de cette arrivée exceptionnelle, le nom de Zinedine Zidane était sur toutes les lèvres. Des proches du comité d'organisation répètent que cette image doit permettre un rayonnement de la France à l'international, sans préciser si c'est le porteur de la flamme ou l'image du vieux port qui permettra ce rayonnement. Un autre nom bien connu du foot français a aussi le profil parfait, celui de Didier Deschamps. Mais le grand favori reste Florent Manodou, le licencié du Cercle des nageurs de Marseille, capitaine du relais de la flamme olympique, est prêt pour porter la torche lors de ce moment festif dans sa ville de cœur. J'ai réservé ma date et j'y serai, a d'ailleurs confié le champion olympique 2012 sur RMC. Le choix final reviendra à Tony Estanguet. L'étape du 9 mai sera aussi remplie de symboles. Ce jour-là, la torche olympique va parcourir Marseille avant un dernier relais au Stade Vélodrome. L'ultime relayeur va même faire le tour du toit avec la torche olympique. Dans ce lieu mythique, un footballeur qui a marqué l'histoire de l'OM est pressenti pour allumer le chaudron.
Manodou, Deschamps, mais on est d'accord que c'est Zinedine Zidane qui nous fait arriver avec Bigard.
Ça serait l'étape qu'il faudrait passer.
L'image serait dingue.
Les JO dans une autre dimension et qui lancerait la dynamique.
Hein. Effectivement, on suivra ça évidemment. Merci beaucoup Nicolas Pelletier pour ces indiscrets olympiques donc ce matin. Avec RMC Sport, 5h42.
RMC, Charles Matin.
Vous l'avez déjà entendu, Alex Biggerstaff et toute la bande également est là. Alex, t'es là pour nous parler de sport, de la story sport ce matin.
Exactement, salut à tous. Le vainqueur du Quintet dimanche à l'Hippodrome d'Auteuil a interpellé Emmanuel Macron après sa victoire. Je vous raconte pourquoi.
Tu nous dis tout ça dans un instant. Anthony Morel, qui est venu alors habillé avec un gilet pare-balles.
C'est ça, ce sera maréchal des logis Morel aujourd'hui. D'accord. S'il vous plaît. Voilà, la tenue du jour d'armes du futur que je vous ai apporté aujourd'hui. Je vous ai expliqué à quoi ça va servir, à mieux lutter contre la criminalité, et ça pourrait sauver la vie des gens.
J'imagine bien que tu n'es pas venu comme ça juste pour le plaisir. Et puis comme chaque jour, on aura ton bonus, Géraldine.
J'ai des bonnes nouvelles de Céline Dion.
Ah bah tiens, ça fait plaisir. Tu nous expliques comment elle va, la chanteuse québécoise. Et puis tiens, on sera avec Romuald qui nous appelle au 32-16 et qui réagira à toutes ces actualités avec nous dans un instant sur RMC. À tout de suite.
RMC jusqu'à 6h30. Charles Matin. RMC. Charles Matin.
Vous reconnaissez la petite musique, toute la bande est là. Anthony Morel qui est là et qui va se transformer en Robocop dans un instant. Maréchal des logis Morel, nous a-t-il dit aujourd'hui. On va l'appeler donc. Exactement. Comme ça. On va galoper aussi dans la story sport avec Bigger Staff. Et Géraldine va essayer de chanter Céline Dion en karaoké dans un instant. Mais d'abord, on va accueillir Romuald au 32-16. Bonjour Romuald.
Bonjour, bonjour.
Comment ça va ce matin?
Comment
ça va?
Bah ça va très bien, ça va très bien. On rentre à la maison et voilà.
Ah, on rentre à la maison après la journée de boulot donc.
Non, j'étais du côté du monde à l'aéroport.
Ah d'accord, ok. Et donc on enchaîne après avec la journée de boulot ou pas du tout?
Non, je suis chômeur.
D'accord, et bien justement, ça tombe bien. Non, je ne vais pas dire ça quand même, parce qu'on aimerait, j'imagine, que travailler. Mais on parle ce matin du chômage, de ce durcissement annoncé des règles de l'assurance chômage. Le gouvernement qui va reprendre la main après l'échec des négociations. Est-ce que ça vous inquiète, vous, du coup, en tant que chômeur, Romuald, de voir le gouvernement s'en prendre aux chômeurs et vouloir réduire... Les conditions d'accès?
Bien sûr que ça m'inquiète, parce qu'on tape toujours sur la même personne. Je trouve que c'est inadmissible. Parce que la finalité, c'est pourquoi? C'est pour faire des petites économies. C'est pourquoi on doit encore taper sur les chômeurs. Je me dis, si c'est pour encore récupérer de l'argent pour faire des économies, il faut toujours commencer par le haut. Parce que, par exemple, c'est encore en 2027, les prochaines élections, sans doute que M. Attal, il sera plus Premier ministre. Et il touchera une retraite, lui, il touchera une retraite de Premier ministre. On pourrait dire qu'il sera chômeur Premier ministre dans 2-3 ans. Est-ce qu'on va taper sur ça? Est-ce qu'on va taper sur
ça? Ouais, pour vous, c'est un peu de la démagogie de s'en prendre aux chômeurs. C'est un peu facile.
C'est très facile.
Et vous cherchez depuis combien de temps? Vous savez combien de temps vous cherchez?
Ça va faire un an.
Et vous avez eu des propositions? Vous avez été accompagné?
Oui, j'en ai eu, mais bien sûr j'en ai eu, mais pas des propositions décentes.
C'est quoi des propositions qui ne sont pas décentes?
Les propositions, par exemple, c'est en dessous de mon chômage. Ou à mon chômage. Donc à un moment, il faut mettre l'essence, et l'essence, vous avez vu, en un an, ça a pris quasiment 30 à 40%. C'est pas les mêmes conditions.
Justement, Romuald, là, le gouvernement envisage, parmi les pistes avancées, il y a la baisse de l'indemnité chômage. Vous nous dites, moi, je prends pas le boulot parce que c'est au niveau de mon chômage. Et on comprend tout à fait ça. Mais justement, est-ce que si on baisse le niveau de l'indemnité chômage, ça vous inciterait pas à reprendre un travail?
Oui et non, mais bon, c'est toujours pareil. Ça dépend des régions, ça dépend des régions. Mais sur la région parisienne, si vous voulez, on peut me proposer un salaire à 2000 euros. Je paye quasiment 1200, 1300, je paye 1250 euros de loyer.
Ouais, ça va tirer tout ça vers le bas, en fait. Ça va tout tirer les salaires vers le bas.
1250 euros de loyer, l'augmentation d'énergie, l'indexation des loyers, l'augmentation de la nourriture, l'augmentation de tout. À un moment, les salaires, ils n'augmentent pas. Donc je dis, au lieu de taper déjà en bas, on va dire qu'il faudrait taper déjà en haut.
On comprend évidemment votre avis. Continuez à réagir, appelez-nous au 32-16 ce matin sur ce durcissement de l'assurance chômage. Est-ce que vous partagez l'avis de Romuald ou non? D'ailleurs, vous avez le droit de ne pas être d'accord, venez nous le dire ce matin au 32-16. Romuald, restez avec nous, je vais me tourner vers le maréchal des logis Anthony Morel. Ce matin, vous inquiétez pas, il est gentil, c'est un gentil gendarme Anthony Morel.
Les gendarmes sont sympas, d'une manière générale.
J'ai jamais dit le contraire. Anthony, puisque l'IA se met au service des forces de l'ordre. Aujourd'hui, on le disait, vous êtes venu habillé avec un gilet pare-balles, qui est donc destiné aux gendarmes et qui est un peu particulier.
Absolument. Alors, c'est ce qu'on appelle en fait une veste tactique, c'est-à-dire un gilet pare-balles, mais qui est couplé à plein de petits compartiments pour ranger des équipements divers et variés. Mais la particularité de celui que je vous ai apporté, c'est qu'il est intelligent. C'est-à-dire qu'il est capable de détecter
tout seul une situation anormale et de réagir en conséquence. C'est-à-dire qu'en gros, à l'intérieur de ce petit gilet, vous avez ça, un boîtier, un petit boîtier en plastique qui est bourré d'électronique, une intelligence artificielle à l'intérieur, et donc il va comprendre tout ce qui se passe dans l'environnement du gendarme quand il est en mission. Par exemple, si le gendarme tombe brusquement, bah là, la veste va le comprendre. Si il y a un coup de feu qui est tiré, la veste va l'entendre. Si il y a un impact de balle ou s'il se fait attaquer au couteau, là aussi la veste va réagir. Comment ? Bah d'abord, la bodycam, donc la caméra embarquée, va se déclencher automatiquement, donc on va filmer. Celles des collègues aux alentours vont se déclencher aussi pour avoir plusieurs angles de vue. Un message de SOS avec la géolocalisation va être envoyée automatiquement au centre de contrôle, donc là où il y a tous les écrans, et donc on peut voir exactement ce qui est en train de se passer en temps réel, envoyer les renforts immédiatement. C'est-à-dire que le gendarme, en fait, n'a plus besoin de faire quoi que ce soit. Tout ça se déclenche automatiquement pour lui, et les quelques secondes ou quelques dizaines de secondes que ça fait gagner, bah mine de rien, ça peut peut-être être la différence entre la vie et la mort. Donc mine de rien, c'est quand même très intéressant d'avoir ce genre d'équipement. Alors il y a plein d'autres choses dans ce petit gilet. Vous avez une fibre lumineuse pour bien voir la nuit, vous avez une petite lampe UV pour analyser la validité des documents d'identité. Vous avez un smartphone durci qui résiste à tous les chocs, et puis vous avez une batterie embarquée parce qu'il faut quand même alimenter tout ça en électricité pour 24 heures. Donc voilà.
Ça a l'air lourd, hein,
c'est assez fait. Lourd. Pas plus que le côté gilet pare-balles parce qu'il faut quand même que ça vous protège. Oui. Hein, c'est un peu le but du truc. C'est quand même voilà l'équipement du gendarme du futur que je vous ai apporté aujourd'hui.
Il est déjà mis en service
Alors il est en phase de test aujourd'hui. C'est une entreprise suisse qui l'a mis au point, qui s'appelle Wearin. Je les remercie d'ailleurs, que c'est eux qui me l'ont prêté. Et en fait, il est testé, mais il va probablement être adopté dans les mois qui viennent. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est pas seulement pour les gendarmes. Il y a d'autres cas d'usage où, pour le coup, il est déjà utilisé. Par exemple, les convoyeurs de fond utilisent déjà des gilets comme cela, avec d'autres types de capteurs, par exemple des capteurs de rythme cardiaque qui vont analyser le stress. C'est-à-dire que si, par exemple, on détecte que le convoyeur de fond qui est en mission, bah, le stress augmente brusquement. S'il prend pas le bon trajet, s'il s'arrête brusquement à un endroit, tout ça, la veste va le comprendre. Et là encore, les caméras vont se déclencher, les micros, on va envoyer des alertes et on va pouvoir aller voir ce qui se passe. Pour les pompiers aussi, on peut imaginer que ça puisse s'appliquer. C'est alors pas avec le côté gilet pare-balles évidemment, mais on va pouvoir intégrer des capteurs notamment de température et de rythme cardiaque qui vont pouvoir analyser et anticiper un éventuel coup de chaud. C'est-à-dire le pompier qui tout à coup risque de s'évanouir dans un incendie par exemple, et donc on va pouvoir anticiper ça et le faire sortir plus rapidement grâce à ces vestes qui vont pouvoir envoyer des alertes aux personnes qui sont voilà, qui surveillent tout ça. Donc encore une fois, c'est des cas d'usage multiples mais qui peuvent potentiellement sauver des vies.
Ouais, c'est très très classe, hein. Je vous invite à aller faire un petit tour. Je lui ai mis la photo sur Instagram. Là, c'est voilà.
Ça me va bien, l'uniforme.
Ouais. Ah, ouais. Ça te va très bien.
Je vois que t'as un petit talkie-walkie. Tu peux faire un petit.
J'ai mon petit. Il est pas actif. Mais j'aimerais bien. Ouais, c'est un peu la veste en mode jouet, quoi. Tu vois, je sais pas.
Ouais, on dirait le déguisement. J'ai ma fille qui a presque le même déguisement.
C'est vrai que c'est impressionnant. Et puis c'est vrai que ça peut être très utile et salvateur dans certaines situations. Merci beaucoup, Anthony, de nous avoir présenté tout ça. Alex, Biggerstaff, je me tourne vers toi ce matin, puisque tu nous parles d'un jockey anglais qui a remporté dimanche à l'hippodrome d'Auteuil le prix du président de la République. Il s'est pas contenté de remporter le prix du président de la République, il a aussi interpellé le président Emmanuel Macron après sa victoire.
Il s'appelle James Reveley et il avait un message important à révéler au président de la République. C'était chez nos confrères d'Equidia.
J'ai une question pour monsieur le président. J'ai gagné votre course maintenant et j'ai toujours pas de titre de ce jour, alors que ça fait 8 ans que je travaille en France. J'ai payé plus de 50 000 d'impôts par an et j'arrive même pas à avoir un titre de ce jour.
Ouais. Ah oui. Originaire du nord-est de l'Angleterre, James vit et travaille en France depuis 2015. Il est installé à Royan, en Charente-Maritime, et il a sa petite réputation dans le milieu des courses équestres. Il a été sacré 3 fois cravache d'or, Anthony, titre récompensant le jockey ayant gagné le plus grand nombre de courses en une année en France dans la discipline jockeys, de l'obstacle.
Oui, tu fais bien de préciser.
Alex, si James a tenté ce coup de poker, c'est parce que sa situation est préoccupante. Il pratique un métier à risque, mais sans couverture. Justement parce qu'il a pâti de ces gens.
Et oui, il le dit lui-même, cette bouteille à la mer, il l'a lancé un peu en rigolant, mais pas tant que ça. Il était invité de BFM Story hier après-midi.
Ça me pose des problèmes pour mes crédits. Je ne peux pas emprunter de l'argent. Si je suis à l'hôpital, je ne suis pas forcément couvert. Je reçois des factures d'hôpital, etc.
Et oui, en gros, il ne peut pas avoir de carte vitale. Cela fait 3 ans qu'il essaie d'obtenir ce titre de séjour alors qu'il a déjà subi plusieurs blessures assez graves. Il a envoyé plusieurs courriers sans réponse. Alors si le président ne lui a pas répondu grâce à ce buzz spontané, il a tout de même été contacté par la préfecture de Creil dans l'Oise. Il a d'ailleurs rendez-vous demain matin. On l'espère pour lui que ça lui permettra de se remettre en selle. En attendant, il devrait être sur la ligne de départ du Grand Steeplechase de Paris le 19 mai prochain. Rendez-vous majeur de la discipline qu'il a déjà remporté 3 fois et le plus drôle,
drôle, c'est qu'il devrait s'élancer sur son cheval nommé Il est français.
Non, ça ah, pas. C'est génial.
Ton cheval s'appelle Il est français.
Il est français.
C'est beau ça. Ah. C'est énorme. Le cheval, ça m'a pris très tôt. C'est vrai que je parlais des blessures graves des jockeys. On a tendance à l'oublier que c'est un sport qui peut être dangereux.
Ah oui, il s'est fait plusieurs fois les tibias, etc. Il y a des blessures quand même assez graves.
Hein. Et là, il y a pas de. On parle d'une lettre pour demander la nationalité française à Emmanuel Macron. C'est pas comme Joël Embiid. Il n'y a pas de question de participer aux JO derrière.
Et ses deux enfants à James sont français d'ailleurs.
Et c'est important pour lui. On l'a entendu grâce à toi, Alex. Romuald, il faut lui accorder la nationalité française à ce jockey ?
Mais bien sûr qu'il faut lui accorder. On vit le monde à l'envers. On accorde la nationalité française à des gens qui ne méritent pas. Et quelqu'un qui apporte 50 000 euros d'impôts par an, les enfants sont français, ils payent tout plein pot. On dit non, le monde à l'envers. On est dans le monde à l'envers en France.
Ça commence à chiffrer, hein, 50 000 euros d'impôts.
Bah, c'est clair, ouais.
Qu'il doit
bien gagner.
Il n'est pas mauvais dans son sport.
Ça permettrait de faire briller un jockey français. Donc tout a gagné dans cette histoire s'il est naturalisé. À 5h54, Géraldine, ton bonus, tu nous donnes des nouvelles ce matin de Céline Dion.
Et oui, she's alive. Toujours en vie, Céline Dion. Alors, c'est vrai qu'elle est très discrète hein, depuis 2 ans, depuis qu'elle a révélé être atteinte du syndrome de la personne raide. Et donc là, elle vient d'accorder un entretien au magazine Vogue, dont elle fait la couverture. Et oui, elle nous donne de ses nouvelles. Et c'est plutôt des bonnes nouvelles, des nouvelles en tout cas plutôt rassurantes. Elle qui avait dû annuler sa tournée l'année dernière. Ça va bien, mais c'est beaucoup de travail. C'est un jour à la fois. Voilà ce qu'elle dit. La chanteuse québécoise explique suivre une thérapie athlétique, physique et vocale 5 jours par semaine. J'ai choisi de travailler de tout mon corps. Mon but est de revoir la Tour Eiffel. Alors, pas de date en revanche pour un éventuel retour sur scène. Mon corps me le dira, mais il y a une chose qui ne s'arrêtera jamais, c'est de vouloir. Voilà, de quoi donner l'espoir à ces millions de fans à travers le monde.
Romuald, ça fait plaisir d'avoir des bonnes nouvelles de Céline Dion.
Ben, je lui souhaite un très bon rétablissement et je sais qu'avoir des pépins physiques, c'est pas bon pour soi et pour les enfants et pour tout ce qu'il y a derrière.
C'est pas simple.
Elle a la volonté.
Ouais, elle a de la volonté et c'est vrai que dans ces cas-là, ça peut être important. Merci beaucoup, Romuald, de nous avoir rappelé ce matin.
Courage.
Mais
de rien, Martin, de rien à toute l'équipe.
Bon courage pour la recherche de boulot.
Merci beaucoup.
Et à bientôt sur RMC. Merci, Alex. Merci, Anthony. Merci, Géraldine. Il est 5h56, où on se retrouve dans un instant sur RMC et RMC Story pour la météo et le journal.
RMC, 5h-6h30,
Charles Matin.
Bonne journée à tous, il est 6h.
RMC, Charles Matin.
Et à 6h, le journal vous est présenté par Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Martin, bonjour à tous. Que s'est-il passé à Biscarrosse ? Le chanteur Kenji Girac, blessé par balle, il a été opéré hier soir et une enquête est ouverte pour tentative d'homicide volontaire. 2 couvre-feux pour les mineurs en Guadeloupe et à Béziers. Ils sont en vigueur depuis hier soir face à la délinquance des adolescents. Et l'appât du gain, on n'a jamais autant joué aux jeux d'argent en France. Ils ont généré plus de 13 milliards d'euros l'année dernière.
Pas de grève à la SNCF au mois de mai. Bonne nouvelle pour les usagers du train. La direction a validé les demandes des cheminots hier. Et ce n'est pas complètement désintéressé, nous dira Arnaud Aimé, spécialiste des transports. Il est l'invité d'RMC à 6h10, juste après le journal. Le parquet de Mont-de-Marsan a donc ouvert une enquête pour tentative d'homicide volontaire.
Le chanteur Kenji Girac a donc été opéré en début de soirée hier à Bordeaux de sa blessure par balle survenue dans la nuit de dimanche à lundi sur une aire de gens du voyage à Biscarrosse. C'est dans les Landes, touché au thorax. Alors dans quelles conditions? C'est toute la question. Pierre Bourgès, correspondant de RMC dans le Sud-Ouest, quelles sont les dernières infos?
Eh bien, tout s'est passé hier matin vers 5h30 après avoir été averti. Les secours trouvent près de sa caravane le chanteur gravement blessé à la poitrine. L'homme explique au secours qu'il se serait tiré lui-même dessus en manipulant un pistolet qu'il venait d'acheter. Une enquête pour tentative d'homicide volontaire a donc été ouverte pour vérifier le récit du chanteur. Sa compagne a été auditionnée et une arme de poing sans chargeur a été retrouvée par les enquêteurs dans un fossé à côté de la caravane. Mais ce supposé accident embarrasse la communauté des gens du voyage, que ce soit dans l'aire de passage à ou devant l'hôpital. Personne n'a souhaité expliquer ce qu'il s'était passé la veille. Une dizaine de proches, dont la mère et le frère de Kenji, étaient à son chevet à l'hôpital, où des consignes de sécurité ont été passées aux agents de sûreté dans le secteur où se trouve Kenji Girac.
La thèse donc de l'accident, voilà la piste avancée par le chanteur dans sa première déclaration et aussi par un ami de Kenji Girac, Nino Balerdo, c'est le cofondateur des Gypsy Kings.
C'est vraiment un accident, ce qui est arrivé, c'est lui-même qu'il a mal manipulé des larmes, il s'est blessé seul, quoi. Il n'y a pas d'autre chose. Chez nous, il n'y a pas d'heure pour jouer de la guitare, pour chanter, ou quelqu'un pour me faire voir une arme. Oh, c'est joli, je vais faire moi voir. Boum, ça, c'est parti, c'est pas autre chose. Nous, on ne fait qu'à la fête entre nous. Kenji, c'est un chanteur, c'est le star des Gitans. Et on est très, très, très malheureux pour ce qui est arrivé.
Il est 6h02 sur RMC. Un couvre-feu pour les mineurs est entré en vigueur depuis hier soir à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. De 20h jusqu'à 5h du matin pendant au moins un mois face à l'augmentation des faits de délinquance dont quasiment la moitié sont commis par les 15-17 ans. Voilà ce qu'explique sur place le préfet. Un couvre-feu est aussi en vigueur depuis hier soir à Béziers pour les mineurs de moins de 13 ans qui n'ont plus le droit donc d'être dans la rue après 23h. C'est un arrêté du maire Robert Ménard face à une progression selon lui de la violence dans sa ville. Jean-Wilfried Forquès pour RMC a passé la nuit avec une patrouille de la police municipale.
Direction un quartier difficile, Benjamin est au volant. Fabrice Cantel, le directeur de la police municipale, l'accompagne.
Là, on est sur un secteur où il y a des mineurs de moins de 13 ans et qui servent régulièrement pour le trafic de drogue.
Mais les rues sont désertes.
Ben, ce soir, c'est pas la fin de semaine, c'est pas vendredi, donc il y a peu de jeunes dans les rues, beaucoup moins que d'habitude.
Le maire de Béziers était également sur le terrain cette nuit. En 2014, il avait instauré un couvre-feu similaire, invalidé par le Conseil d'État 10 ans plus tard. Selon Robert Ménard, le contexte a changé.
Ils sont de plus en plus jeunes, de plus en plus violents. Ça touche les garçons, mais ça touche aussi les filles. Et c'est pour ça qu'il ne faut plus l'accepter.
Et les Biterrois, rencontrés dans la nuit, apprécient l'initiative de l'élu.
C'est parfait, tant mieux, il était temps. Décision qui peut, j'espère, permettre de responsabiliser les parents.
Il va falloir qu'il y ait une surveillance qui soit certainement accrue de la part des forces de l'ordre, mais pour moi, oui, ça, c'est une bonne chose.
Un couvre-feu contesté par la Ligue des droits de l'homme qui envisage de déposer un recours.
Et c'est dans ce contexte, avec des faits de violence impliquant les adolescents, que Gabriel Attal était hier à Nice pour lancer des internats éducatifs destinés aux jeunes qui, dit-il, dérivent. Le Premier ministre s'est fait une nouvelle annonce ce matin dans le journal Le Figaro concernant les bourses. À partir de la rentrée prochaine, il n'y aura plus besoin de faire de démarches. Elles seront versées automatiquement aux collégiens et aux lycéens via les données fiscales des familles. Ce qu'explique Matignon à RMC. Alors qu'en pensent les parents d'élèves? Abdelkrim Meshabi de la FCPE.
Alors c'est sûr que c'est compliqué pour un certain nombre de familles de remplir tous ces documents, etc. Donc cette démarche va faciliter un certain nombre de choses pour les familles. Bien sûr qu'on trouve que c'est une bonne chose, mais c'est un peu décalé par rapport aux difficultés que tous les élèves rencontrent dans le pays. On veut des profs qui sont remplacés dès la première heure. Aujourd'hui, c'est ça qu'on attend. C'est des moyens supplémentaires pour les
La galère ne fait manifestement que commencer à l'ouest de Paris sur l'autoroute A13 qui ne rouvrira pas avant le 1er mai. La faute est toujours à des fissures provoquées par un affaissement du terrain.
Les jeux d'argent ont battu des records l'année dernière en France.
Ils ont généré plus de 13 milliards d'euros. Ça n'a jamais été aussi élevé, en hausse de 3,5% sur un an d'après l'Autorité nationale des jeux, et même 6% rien que pour les paris sportifs. Avec en toile de fond, Lucas Lauber, la quête de frissons et l'appât du gain en ces temps d'inflation.
Oui, une recherche d'émotion que Manolo, parieur régulier, adore.
C'est enivrant, ouais. La sensation de gagner, etc. Et de voir des personnes sur qui on parie gagner aussi, c'est le frisson. Et en plus de ça, on gagne de l'argent, donc le bonheur, il est multiplié par 10 finalement.
Alors gagner, ce n'est pas pour tout le monde. Mba, il assure, la plupart du temps, on perd de l'argent.
J'étais un perdant en fait. Je jouais et je gagnais pas, du coup je me suis dit ça n'a pas de sens, je vais arrêter.
Il est resté raisonnable, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde.
Je connais des potes, c'est comme une drogue pour eux, ils sont devenus accros.
Un risque d'addiction que prend au sérieux l'ANJ, l'Autorité Nationale des Jeux. Elle régule les jeux d'argent en France. Avec l'Euro de football, les Jeux Olympiques, 2024 risque d'être une année record sur les paris sportifs. Guillaume Laborderie, directeur marché innovation à l'ANJ.
Nous on appelle à une particulière vigilance sur les pratiques des joueurs. Le nombre de points de contact, de notifications push ou d'email est limité en nombre par jour, par semaine. Donc les spots TV aussi sont aussi encadrés à ce niveau-là.
L'année dernière, 3 600 000 personnes ont joué de l'argent en ligne en France.
Et puis première fois que la Chine se défend des accusations de dopage aux Jeux Olympiques de Tokyo, selon une vaste enquête de la presse allemande et américaine qui évoque 23 nageurs chinois testés positifs. Ce sont des accusations fallacieuses. Ce n'est pas du dopage, mais une contamination alimentaire à l'insu des nageurs. Voilà ce qu'assure le porte-parole des affaires étrangères à Pékin.
Après une enquête approfondie et détaillée de cet incident par le centre antidopage chinois en 2021, il a été déterminé que les athlètes concernés avaient ingéré des aliments contaminés à leur insu. Les nageurs chinois impliqués n'étaient ni fautifs ni coupables de négligence et leur comportement ne constituait pas une violation des règles antidopage.
Et puis l'événement du jour en sport à ne surtout pas manquer, c'est le Super Moscato Show qui se délocalise aujourd'hui et qui sera en direct de cet après-midi de 15h à 18h depuis La Rochelle.
À ne pas manquer.
Double champion en titre de rugby avec comme invité le manager du Stade Rochelet, Ronan O'Gara, et le capitaine des Bleus du 15 de France, Grégory Aldrit.
Je te demande pas ce que tu fais entre 15h et 18h tout à l'heure.
Ah, je vais écouter religieusement Vincent Moscato cet après-midi.
J'imagine bien. Alors, tu vas écouter Vincent Moscato, tu vas aussi écouter, j'imagine, surtout Ronan O'Gara et Greg Aldrit.
Oui.
Les deux.
Non, mais c'est bien, 3 heures. Ouais, 3 heures depuis un club de rugby, un club professionnel de rugby, c'est super pour le Moscato Show.
Exactement. Et qui joue les playoffs et qui vise le titre. De toute façon, c'est ça, hein, le but de La Rochelle cette année en top.
Oui, enfin, bon, là, on n'y est pas trop.
Non, mais bon, s'il y a les playoffs, après, on peut rêver.
On n'y est pas encore. Ouais.
On n'y est pas encore. La prudence de Quentin Vinet. Merci beaucoup, Quentin. On te retrouve à 7h pour un prochain journal. Salut Manu Le Chypre.
Bonjour à tous.
Ça va ce matin?
Mais oui, très bien.
Ça t'a fait réagir les soupçons de dopage en Chine et la réaction des autorités chinoises surtout.
Mais c'est un des multiples canaux de la diplomatie et du soft power, le sport. Donc voilà, on voit qu'il y a des gens qui sont très très forts, effectivement, pour expliquer tout ça.
Pour expliquer des cas de dopage qui n'est pas donc du dopage d'après les autorités chinoises. 6h09 sur RMC, on joue ensemble.
RMC, Charles Matin, êtes-vous bien réveillé?
Et on joue avec l'actu, comme tous les matins, évidemment, vous le savez, on vous pose une question. La réponse, elle est un peu partout sur RMC depuis hier matin, même la réponse à une question que va vous poser Géraldine Demory.
Quel chanteur a été hospitalisé hier après une blessure par balle?
La réponse, vous l'avez forcément entendue depuis hier. Donc, vous prenez votre téléphone et vous envoyez le mot actu par SMS au 732-16. Actu.
Il y a un léger indice
par SMS au 732-16. Léger, très léger.
En tout cas, si vous avez la bonne réponse, vous pouvez repartir avec un radio réveil de la marque Muse.
Et quel chanteur a été hospitalisé hier après une blessure par balle? Si vous avez la réponse, vous envoyez le mot actu par SMS au 732-16. Bonne chance à tous.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi.
À suivre dans Charles Matin sur RMC.
C'est la bonne nouvelle du jour pour tous ceux qui avaient déjà réservé leur billet de train pour les ponts du mois de mai. Il n'y aura pas de grève. À la SNCF, la direction a validé les demandes des cheminots sur les fins de carrière et c'est une manière d'escamoter les effets de la réforme des retraites. Voilà ce que va nous dire Arnaud Aimé, spécialiste des transports du cabinet SIA Partner. A tout de suite sur RMC, RMC Story.
RMC jusqu'à 6h30.
Charles Matin.
RMC jusqu'à 6h30. Charles Matin, Martin Bourdin.
RMC 6h13, une bonne nouvelle ce matin pour ceux qui prennent le train.
L'invité de Charles Matin.
La bonne nouvelle, c'est qu'il ne devrait pas y avoir de grève à la SNCF pendant les ponts du mois de mai. On va décrypter tout ça avec Arnaud Aimé. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste des transports, directeur général de SIA Partners. Alors, pas de grève a priori donc pour les ponts du mois de mai à la SNCF, parce que la direction a accepté les demandes des cheminots hier sur les fins de carrière. En résumé, les cheminots qui exercent un métier pénible pourront partir jusqu'à un an et demi avant la date de départ en retraite, tout en étant payés à 75%. Un accord a donc été signé, et fait rare ici, mais il a été signé par les 4 principaux syndicats de cheminots de la SNCF. Les préavis de grève ont donc été de facto levés. Clairement, Arnaud Aimé, ce sont les cheminots qui ont gagné le bras de fer.
Si c'est aussi clair que ça, je ne sais pas si c'est la direction qui a accepté les revendications des cheminots ou bien si c'est les cheminots qui ont accepté les propositions de la direction. Pourquoi je dis ça? Parce que cet accord, alors comme vous dites, il est historique puisque ça fait bien longtemps qu'il n'y avait pas un accord qui avait été signé à la SNCF, non pas par une majorité de syndicats, mais par la totalité des syndicats représentatifs, c'est-à-dire à la fois les réformistes comme l'UNSA, la CFDT, mais aussi les protestataires comme la CGT et Sud. La SNCF, ce qu'elle a fait, c'est ce que doivent faire en fait finalement beaucoup d'entreprises, en tout cas toutes celles qui ont une part importante d'emploi qui est exposée à la pénibilité. Et c'est le cas à la SNCF, puisqu'il y a du travail de nuit, du travail en plein air, etc. C'est aussi l'intérêt de l'employeur.
Mais quel est l'intérêt justement pour l'employeur de signer ce genre d'accord?
Il est assez clair, c'est-à-dire que pour l'employeur, il y a l'assurance, enfin, grâce à ce type de dispositif, qui avec soit une cessation anticipée d'activité, soit un temps partiel de fin de carrière, soit un repositionnement des salariés sur des postes à moindre pénibilité dans les dernières années. L'intérêt pour l'employeur, c'est d'avoir des salariés en fin de carrière qui restent productifs, qui restent motivés, qui restent efficaces. Parce que si ce n'est pas le cas, on se retrouve avec des salariés donc en fin de carrière qui vont être moins utiles, moins engagés, voire qui vont faire plus l'objet d'inaptitude.
C'est pas juste qui vont passer la grève du mois de mai. Quoi.
Non, il y a un objectif de moyen terme et encore une fois, c'est pas spécifique à la SNCF. On le voit plus à la SNCF aujourd'hui parce que on fait très attention à la SNCF, aux grèves du pont du Bois de Mai, puis aux Jeux Olympiques. Mais dans beaucoup d'entreprises qui ont du travail qui est exposé à la pénibilité, il y a ce type de démarche aujourd'hui. Et si les entreprises comme la SNCF, elles veulent pas se retrouver à la fin avec ce que je disais d'inaptitude ou même une multiplication des arrêts de travail, eh ben faut aménager un certain nombre de postes pour que les gens puissent
Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la réforme des retraites, on se rappelle des manifestations, des débats qu'on a eus, y compris ici sur ce plateau, ça veut dire que cette réforme des retraites, à la SNCF, n'aura finalement que très peu d'effet?
Si, elle aura un effet, parce que... Il y avait déjà des accords en fait sur les fins de carrière. Le dernier accord, par contre, il date d'il y a 15 ans. Donc, l'accord qui avait été fait il y a 15 ans consistait à aménager dans une certaine mesure les fins de carrière dans la perspective de l'ancienne des retraites. Tout ça a été allongé de 2 ans et les dispositifs d'aménagement, disons, eux aussi, ils sont repoussés de 2 ans, mais ils continuent à exister. Ils doivent évoluer avec ce report de l'âge légal.
Vous l'avez dit, les derniers accords remontaient à il y a 15 ans. D'ailleurs, cette demande sur les fins de carrière, c'était le cheval de bataille des syndicats, des cheminots. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les menaces de grève s'éloignent vraiment là pour les prochains mois, y compris pour les Jeux Olympiques?
C'est tout à fait clair. Ce qui se lève à plus court terme, effectivement, c'était c'est les menaces de grève pour les ponts du mois de mai qui sont assez nombreux. Il y avait un préavis qui avait été posé. Alors, ça fait partie des modalités de dialogue social aujourd'hui à la SNCF. C'est-à-dire que même si la direction de la SNCF avait annoncé depuis déjà plusieurs mois et voulait s'attaquer en 2024 à l'adaptation des fins de carrière compte tenu du report de l'âge légal de départ à la retraite. Malgré ça, malgré les intentions de la direction, et la direction dise je veux me poser avec l'ensemble des syndicats et faire des mesures qui bénéficient à tous, etc. Malgré ça, certains syndicats protestataires, pour la forme, parce que c'est dans leur manière de faire, on dit très bien, c'est très intéressant cette démarche, mais on va quand même mettre un petit préavis de grève au mois de mai, au cas où, pour mettre un peu la pression.
Pour faire la pression. Merci beaucoup Arnaud Aimé, directeur général de SIA Partner, spécialiste des transports, d'avoir été avec nous ce matin pour décrypter cet accord à la SNCF qui donc éloigne les grèves du mois de mai. Merci d'avoir été avec nous. 6h18 sur RMC, on file au 32-16, retrouvez Gérard. Bonjour Gérard.
Bonjour.
Vous êtes routier, vous nous appelez depuis Avignon, dans le Vaucluse, pour réagir à notre débat ce matin sur le durcissement des conditions d'accès au chômage. Le gouvernement qui va reprendre la main et qui envisage donc de durcir les règles à partir du mois de juillet. Est-ce que le gouvernement fait bien de vouloir s'en prendre aux chômeurs comme ça?
Moi, je dis non, parce que j'ai été au chômage. Bon, Dieu merci, j'ai retrouvé un emploi. Excusez-moi, le chômage, on cotise pour ça, et c'est juste une sécurité pour ne pas tomber trop dans la précarité, quoi. Donc, ils ont déjà fait une première réforme, ils n'ont même pas les retours, ils veulent déjà refaire autre chose dessus encore.
Et ça, vous ne pensez pas que ça permettrait, en durcissant un peu, d'atteindre le plein emploi? C'est ce que souhaite le gouvernement?
Non, franchement non. Je vais vous donner mon exemple. j'ai perdu mon emploi pour licenciement économique en tant que chauffeur routier. Et pourtant, il y a beaucoup de demandes. Eh bien, je vous dis, moi, à 40 ans, pour retrouver un emploi dans le chauffeur routier, excusez-moi, ça n'a pas été évident. Ils cherchent des petits jeunes, des personnes qui ont moins d'expérience pour avoir des salaires tirés vers le bas. Quand ils font, s'ils font ça, s'ils veulent encore faire ça, c'est pour être encore sous-payés. Donc, déjà qu'avec les salaires qu'on a, on ne vit pas correctement, on fait que payer des factures et beaucoup d'impôts. Si on rajoute encore une couche, ben là, ils mettent encore les personnes plus dans la précarité et à accepter n'importe quel emploi.
Et vous n'êtes pas le premier ce matin à nous dire que ce genre de mesures pourrait tirer les salaires vers le bas. Merci beaucoup, Gérard, d'être venu au 32-16 partager votre point de vue. Le débat continue ce matin sur RMC, dont Charles Matin, dont Apolline Matin également, avec Sébastien Krebs qui va pas tarder à arriver. On continue de débattre de ce durcissement des allocations, de durcissement des conditions d'accès au chômage. Vous nous appelez au 32-16, vous laissez vos messages sur l'appli RMC, rubrique direct studio, 6h20.
RMC, Charles Matin.
Et dans un instant, c'est donc Manu Conso.
Avec le contrôle technique, il y a de plus en plus de véhicules qui passent au travers.
RMC jusqu'à 6h30.
Charles Matin.
RMC jusqu'à 6h30. Charles Matin. Martin Bourdin.
Bon réveil à tous, 6h22 sur RMC, c'est Manu le mécano ce matin.
RMC, Manu Conso.
Manu Le Chypre qui nous emmène donc dans les garages. Tu nous dis, Manu, ce matin, que de plus en plus d'automobilistes zappent le contrôle technique.
Oui, c'est le baromètre réalisé par 40 millions d'automobilistes et Autovision qui le dit. De moins en moins de propriétaires de vieux véhicules se rendent dans les centres de contrôle technique. Plus précisément, ce sont entre 5 et 7% des véhicules en France qui ne passent plus le contrôle technique. Alors, sur 20 millions de véhicules qui passent dans les centres chaque année, ça fait quand même presque 1 million de véhicules dangereux sur les routes au bas mot qui circulent, ce qui est quand même assez préoccupant.
Oui, c'est énorme parce qu'on est quand même sur un contrôle qui est non seulement obligatoire, mais en plus important. Pourquoi est-ce qu'on se soustrait à ce point, à ce contrôle technique?
Alors, pas tellement pour le coût du contrôle en lui-même. Alors, certes, ça varie selon les régions, ça varie selon les centres de contrôle, mais bon, c'est quand même entre 50 et 80 euros. C'est pas délirant. Non, c'est surtout que le test est de plus en plus difficile à réussir, notamment pour les voitures de plus de 10 ans. Il faut rappeler que le test s'est durci hein, en 2019 avec l'obligation de valider 133 points de contrôle. Et qui dit test raté, dit réparation. Et là, l'équation est terrible entre la pression sur le pouvoir d'achat et la hausse de ces coûts de réparation. Hein. L'association Sécurité et Réparation Automobile nous dit que depuis 2019, ça a quand même augmenté de 26% la facture dans les garages, ce qui est assez fort, et 7% en 2023, ce qui est bien au-delà de l'inflation, ce qui fait que le coût des réparations, ça fait facilement plusieurs centaines d'euros assez vite, vu que le coût de la main-d'œuvre, l'heure de garage, hein, c'est pas loin d'une centaine d'euros. Ça fait cher la facture, et il faut rappeler que c'est un mauvais calcul. Au-delà des 135 euros d'amende que vous risquez, vous roulez avec un véhicule qui est potentiellement dangereux. Et si vous n'avez pas passé le contrôle technique, inutile de vous expliquer que ce sera compliqué après avec les assurances, etc. Oui. Si vous avez le moindre problème.
Oui, donc allez passer votre contrôle technique si vous ne l'avez pas fait. Les conseils de Manu Le Chypre ce matin. On retrouve évidemment toutes tes chroniques sur rmc.fr et sur l'appli RMC en podcast.
Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, partenaire premium de Paris 2024.
RMC, Charles Matin, êtes-vous bien réveillé?
Et à 6h24 sur RMC, on accueille Dimitri qui a été tiré au sort. Bonjour Dimitri et bravo.
Bonjour.
Ça va ce matin Dimitri, vous nous appelez d'où?
De Rennes.
De Rennes, et donc vous avez été tiré au sort pour jouer avec nous à la question d'actu, la question que va vous poser Géraldine. Il va falloir une réponse ensuite, Dimitri.
Quel chanteur a été hospitalisé hier après une blessure par balle?
Kenji,
c'est Kenji. Une bonne réponse, Kenji.
Kenji Girac.
Kenji Girac, mais bon, on le valide quand même. Bravo, Dimitri.
Merci.
Vous repartez, Géraldine.
Avec votre radio réveil de la marque Muse, bravo.
Bon, bravo, bien, bravo. Le radio réveil qui part du côté de Rennes pour vous, Dimitri. Bravo et bonne journée du côté de la Bretagne.
Salut Sébastien Krebs.
Salut Martin, bonjour Géraldine, bonjour Manu, bonjour à tous, Apolline Matin, c'est parti. Dans un instant, vous parliez de Kenji Girac, on vous donnera bien sûr ce matin les dernières infos sur son état de santé. On sera à Bordeaux devant l'hôpital. Le mystère autour donc de cette blessure par balle, c'est ce qu'il semble expliquer, un accident. À 7h10, les explications tout à l'heure d'un armurier sur ce pistolet semi-automatique, semble-t-il acheté sur une brocante. Est-ce que c'est fréquent? Est-ce que c'est légal? Est-ce que cette thèse de l'accident est plausible? On en parlera tout à l'heure à 7h10. Et puis on vous attend au 32-16 ce matin. On va débattre ensemble de l'indemnisation des chômeurs. Le gouvernement qui accélère. On va tout vous expliquer. Les conditions vont se durcir dès le 1er juillet, dès cet été. Les syndicats dénoncent déjà un coup de force. Et vous, est-ce que vous estimez qu'il y a urgence à serrer la vis, réduire la durée d'indemnisation, durcir les conditions pour pouvoir accéder au chômage? Est-ce que ça peut pousser les chômeurs à retrouver plus vite un emploi? Ou est-ce que c'est une raison dissimulée pour faire des économies? Est-ce que, selon vous, c'est justifié? Est-ce que c'est une stigmatisation des chômeurs? On en parle tous ensemble. 32-16, voilà pour le programme du jour à 7h40. C'est la ministre en charge des collectivités, Dominique Faure, qui sera mon invitée. On parlera de ses maires, de ses élus en première ligne face aux violences. A tout de suite pour le top départ d'Apolline Matin.
RMC, Apolline Matin.